Les nanotechnologies constituent un type de manipulation d'un genre très différent. L'intervention du scientifique sur l'image pour fabriquer des choses, couper, déplacer, combiner, fusionner ou mettre en marche. Sous certains aspects, le changement le plus profond concerne le soi scientifique, ou devrait-on désormais dire le soi technico-scientifique. La persona du scientifique et de l'ingénieur ont tendance à se confondre à maint égard, du moins dans ce champ hybride. Traditionnellement, le scientifique avait tendance à laisser à d'autres la fabrication d'engins en tant que tel. Si le physicien construisait des instruments, c'était pour révéler quelque chose autrement plus important. Une galaxie, un supraconducteur, une particule élémentaire. L'ingénieur, de son côté, exigeait des outils plus puissants, efficaces et flexibles. Mais à mesure que le soi technico-industriel commence à se stabiliser, il s'accompagne de nouvelles attitudes à l'égard des images. Les images deviennent des outils comme les autres et s'intègrent au dispositif scientifique. Ainsi, de l'écran d'ordinateur, qui montre les opérations d'une manipulation robotisée contrôlée à distance en téléchirurgie, la modification d'un satellite dans l'espace, la manipulation de produits toxiques ou le désamorçage d'une bombe. Notre schéma ne saurait rendre compte de l'intégralité des techniques scientifiques de fabrication d'images en usage au début du XXIe siècle, ni même de toutes les collections d'images évocatrices des atlas. Mais il est peut-être possible d'identifier dans les images-outils une nouvelle forme de collection d'images qui aurait rejeté l'idéal de fidélité en faveur de la juste manufacture. Il est trop tôt pour savoir comment évoluera cette forme hybride entre science et ingénierie dans la durée, et pour entrevoir les changements qu'elle pourrait occasionner sur la structure institutionnelle de la recherche et de l'éthos du chercheur. À un niveau plus abstrait, elle soulève la question du destin de l'épistémologie des images. Pendant très longtemps, les images scientifiques d'enregistrement ont servi à contrer les menaces à l'acquisition des connaissances. Elles ont combattu des inquiétudes liées à la variabilité de la sensibilité individuelle, à l'intervention subjective et aux artefacts parasites. Cette étude nous a permis de nous pencher sur un volet pratique déterminant de l'histoire de l'épistémologie scientifique et sur la façon dont les objets scientifiques en viennent à se qualifier comme réels via la mise à l'épreuve de la paillasse. Mais ni la peur de l'erreur ni le dépistage du réel ne sont plus vraiment le propos des images tactiles. L'inquiétude a-t-elle changé d'objet ? Sommes-nous passés de la question de la bonne saisie du réel à celle de la fabrication du bon réel ? Les inquiétants débats sur le clonage, les organismes génétiquement modifiés et les nanorobots, doués de sensations, sont peut-être l'indice d'un tournant dans la manière dont il faudra désormais étudier l'évolution des vertus scientifiques. À l'ère de la vérité d'après nature, les images servaient de voie d'accès inspirées à un monde idéalisé. À l'ère de la vérité d'après nature, les images servaient de voie d'accès inspirées à un monde idéalisé. Plus tard, le régime d'automaticité de l'objectivité mécanique les a de nouveau fermement ancrées d'ici-bas. Elles ne contenaient que la nature, rien de nous. Dans l'exercice du jugement, les images jetaient un pont entre nous et le monde. Maintenant que les images deviennent mi-outil, mi-art, que sont-elles ? Les nanofabricants les utilisent comme objets esthétiques et comme support de communication pour façonner un nouveau monde merveilleux d'objets à l'échelle de l'atome. L'image scientifique est en passe de se défaire complètement de sa dimension de représentation et d'acquérir le pouvoir de faire. De nouveau, les images sont en pleine mutation. De nouveau, le soi scientifique l'est aussi. De la représentation à la présentation, dans le chapitre 7, Lauren Daston et Peter Gallison, Objectivité, 2012.